Épître aux Hébreux, chapitre 9. La première, donc, avait aussi des ordonnances pour le culte, et le sanctuaire, un sanctuaire terrestre. Car un tabernacle fut construit, le premier, qui est appelé saint, dans lequel était le chandelier et la table et la proposition des pains. Et après le second voile, un tabernacle qui est appelé Saint des Saints, ayant l'encensoir d'or et l'arche de l'Alliance entièrement couverte d'or tout autour, dans laquelle était la cruche d'or qui renfermait la manne et la verge d'Aaron qui avait bourgeonné, et les tables de l'Alliance. Et au-dessus de l'arche, des chérubins de gloire ombrageant le propitiatoire, sur quoi nous n'avons pas à parler dans ce moment en détail. Or, ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs entrent constamment dans le premier tabernacle, accomplissant le service. Mais dans le second, le seul souverain sacrificateur, une fois l'an, non sans du sang, qu'il offre pour lui-même et pour les fautes du peuple, l'Esprit Saint indiquant ceci: le chemin des lieux saints n'a pas encore été manifesté, tandis que le premier tabernacle a encore sa place, lequel est une figure pour le temps présent, dans lequel sont offerts des dons et des sacrifices qui ne peuvent pas rendre parfait quant à la conscience celui qui rend le culte. Culte qui consiste seulement en viande, en breuvage, en diverses ablutions, ordonnances charnelles imposées jusqu'au temps du redressement. Mais Christ étant venu, souverain sacrificateur des biens à venir, par le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas fait de main, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création, et non avec le sang de bouc et de veau, mais avec son propre sang, est entré une fois pour toutes dans les lieux saints, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang de bouc et de taureau et la cendre d'une génisse avec laquelle on fait aspersion sur ceux qui sont souillés sanctifie pour la pureté de la chair, combien plus le sang du Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même à Dieu sans tâche, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes pour que vous serviez le Dieu vivant? Et c'est pourquoi il est médiateur d'une nouvelle alliance, en sorte que la mort étant intervenue pour la rançon des transgressions qui étaient sous la première alliance, ceux qui sont appelés reçoivent l'héritage éternel qui a été promis. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur intervienne, car un testament est valide lorsque la mort est intervenue, puisqu'il n'a pas de force tant que le testateur vit. De là vient qu'aussi, la première alliance n'a pas été inaugurée sans du sang. Car chaque commandement, pour ce qui concerne la loi, ayant été proclamé par Moïse à tout le peuple, il prit le sang des veaux et des boucs, avec de l'eau et de la laine écarlate et de l'hysope, et en fit aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple en disant: « C'est ici le sang de l'Alliance que Dieu vous a ordonné. Et de la même manière, il fit aspersion du sang sur le tabernacle aussi, et sur tous les ustensiles du service. Et presque toutes choses sont purifiées par du sang selon la loi. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de rémission. Il était donc nécessaire que les images des choses qui sont dans les cieux fussent purifiées par de telles choses, mais que les choses célestes elles-mêmes le fussent par de meilleurs sacrifices que ceux-là. Car le Christ n'est pas entré dans des lieux saints faits de main, copie des vrais, mais dans le ciel même, afin de paraître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Ni non plus afin de s'offrir lui-même plusieurs fois, ainsi que le souverain sacrificateur entre dans les lieux saints chaque année, avec un sang autre que le sien. Et puisque dans ce cas, il aurait fallu qu'il souffrît plusieurs fois depuis la fondation du monde. Mais maintenant, en la consommation des siècles, il a été manifesté une fois pour l'abolition du péché par son sacrifice. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une fois et après cela le jugement, ainsi le Christ aussi, ayant été offert une fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra une seconde fois sans péché à salut à ceux qui l'attendent.
Et dans ces méditations de l'Épître aux Hébreux, jusqu'à ce chapitre 10, jusqu'à ce chapitre 9, et nous avions même considéré, sans entrer dans beaucoup de détails, les 10 premiers versets, étant arrivés jusqu'à ce « mais » si important, qui marque le changement capital intervenu dans le déroulement des voies de Dieu. Mais il est bien bon de reprendre l'ensemble de ce chapitre 9, continuer d'ailleurs, car le sujet ne s'en sépare pas, par le chapitre 10, au moins jusqu'au verset 19 et même au verset 22 du chapitre 10. C'est toujours le grand sujet de la sacrificature de Christ, de cet office que Christ remplit d'assurer des relations, et quelles relations maintenant, entre Dieu et l'homme, entre l'homme et Dieu, entre le croyant et Dieu. Nous avons vu dans toute l'Épître quelle place éminente occupe ce sujet, ce double sujet de Christ comme souverain sacrificateur. Grand sacrificateur, souverain sacrificateur, grand souverain sacrificateur, et la sacrificature de Christ. On l'a trouvé dans tous les chapitres, depuis le chapitre 2 jusqu'à ce chapitre 10. Et ce sujet, chapitre 2, 3, 4, 5, 6, s'est présenté tout particulièrement dans les chapitres 7 et 8, qui nous présentent la personne du sacrificateur et le caractère de sa sacrificature. Le chapitre 7 surtout nous le montrant avec tous les titres qui sont les siens, titre glorieux, titre unique à cette sacrificature qui est la sacrificature pour l'éternité selon l'ordre de Melchisédek. Avec les chapitres 9 et 10, nous avons, peut-on dire, la base, le fondement de cette sacrificature, la base sur laquelle elle s'exerce. Nous n'avons pas proprement l'exercice de cette sacrificature, sauf qu'il nous est dit qu'il paraît devant Dieu, mais il paraît devant Dieu pour nous. Dans les chapitres précédents, il y a mentions, des allusions plus précises à cet exercice actuel de la sacrificature dans le ciel. Sacrificature s'exerçant en faveur de ceux qui sont maintenant sur la terre, comme des pèlerins à travers le désert, comme était le peuple traversant le désert, en attendant l'exercice de la sacrificature glorieuse de l'avenir, déjà dans le règne, puis pour l'éternité. Mais ici, c'est la base de cet exercice de la sacrificature céleste. C'est une base qui ne peut être trop rappelée, sur laquelle l'Esprit Saint nous ramène continuellement, puisqu'il s'agit de l'œuvre expiatoire de Christ, de son sacrifice, de son sang versé, puis porté dans les lieux célestes. Le sang apparaît pour la première fois avec le verset 7. Et puis, il en est question continuellement dans ce chapitre 9 et en partie dans le chapitre 10. C'est donc l'œuvre de la croix. Elle n'est pas présentée ici comme le fait historique. Et il n'y a pas la description, il n'y a pas la relation des faits. Le croyant doit connaître ces choses. Et les allusions qui y sont faites doivent parler à son cœur comme à son esprit. Et nous avons à prendre garde de ne pas parler de ces choses en oubliant que l'œuvre dont il est question, c'est celle qui a été accomplie dans les souffrances, l'abandon, la mort. Que cela soit toujours devant nos yeux. Mais le sujet ici, c'est essentiellement la valeur de cette œuvre. La valeur aux yeux de Dieu et la valeur pour nous. Le chapitre 10 étant davantage le chapitre nous parlant de l'application de cette valeur, de cette excellence de l'œuvre à nous-mêmes. Et le chapitre 9, nous présentons cette valeur, cette excellence en rapport avec l'excellence même de la personne et en rapport avec Dieu. Mais la chose est présentée, comme partout dans les Hébreux, en contraste, plus que comparaison, contraste avec ce qui avait lieu dans le culte judaïque, le culte terrestre, le sanctuaire terrestre. Et c'est pourquoi il est question du tabernacle. le peuple vu à travers le désert, et il y a le tabernacle, Dieu habitant au milieu de lui. Nous sommes dans le désert. C'est pourquoi il est question du tabernacle, non pas du temple, bien que, ces choses se rejoignent. Mais c'est essentiellement le tabernacle. Et alors, nous avons dans les premiers versets, jusqu'au verset 10 déjà, nous avons le tabernacle terrestre. Le tabernacle terrestre est ce qui nous en est dit est propre à bien mettre en relief ce grand fait que tant que il y avait ce sanctuaire terrestre, tant que Dieu ne reconnaissait que cela, il restait un Dieu caché et un Dieu inaccessible. Un Dieu renfermé à l'intérieur du voile, dans la nuit du lieu très saint. Tout ce qu'il y avait de glorieux là était caché au regard, et l'homme ne pouvait pas entrer. Cela est une image, cela est bien souligné dans ce chapitre, nous l'avons relu, une image du sanctuaire céleste et du Dieu caché à l'homme, et du Dieu qui habite la lumière inaccessible, et l'homme incapable de s'approcher de Dieu, d'entrer en sa présence, parce que il est pécheur. Même les relations que Dieu pouvait avoir avec l'homme innocent ne sont plus, et les relations avec l'homme en Adam, descendant d'Adam, sont absolument empêchées par son état de pécheur. Alors voilà que tout change, et c'est à partir du verset 11, à partir de ce « mais » que tout change effectivement. Christ est venu, Christ, souverain sacrificateur des biens à venir, et alors, voici que le chemin est ouvert. Voici que le sang est porté jusque dans le sanctuaire. Et alors il se produit ce changement inouï. Dieu est sorti du sanctuaire. Dieu, dans la personne de Christ, est venu ici-bas. Il est venu vers l'homme. Et Christ est entré, remonté au ciel, mais entré comme âme dans la présence de Dieu. Dieu n'est plus caché et Dieu n'est plus inaccessible parce que la grande œuvre de l'expiation a été accomplie. C'est ce qui nous est bien souligné quand il nous est dit au verset 12, Christ est entré avec son propre sang. Et il est entré une fois pour toutes dans les lieux saints, ayant obtenu une rédemption éternelle. Non pas la possibilité de quelques contacts, de quelques relations qui ne pouvaient pas être durables parce que le péché n'avait pas été ôté, mais ayant obtenu une rédemption éternelle. Et voilà la base posée. Et c'est sur ce fondement éternel que maintenant les conséquences si précieuses, si glorieuses pour Dieu, si heureuses pour nous qui étions des pécheurs, peuvent se dérouler. Et l'on a alors, dans les versets qui suivent, d'abord, versets 13 et 14, la purification de la conscience. La rédemption éternelle étant obtenue, Christ entré dans le ciel, la conscience peut-être de ceux qui savent qui rendent culte peut être purifiée. Cela nous est repris dans le chapitre 10 et développé, on peut dire, de façon telle qu'il ne peut pas y avoir de doute ni d'obscurité pour le croyant. Mais la chose est posée dès ces versets-là. La conscience purifiée des œuvres mortes pour que vous serviez le Dieu vivant. Première chose. Et ensuite, sur la même base, en vertu de la même œuvre et du même son versé, tous les conseils et toutes les promesses de Dieu peuvent avoir leur accomplissement. Et pour ceux qui sont appelés, l'héritage éternel pourra leur être donné. L'héritage est sur ce mot d'héritage se trouve, on peut dire, greffé la nouvelle alliance, mais plus que cela, l'éternité bienheureuse s'ouvrant pour les croyants. L'héritage qui a été promis peut être donné, parce que cet héritage promis par ce qui avait le caractère d'un testament et qui ne pouvait être effectivement donné, dans lequel on ne pouvait entrer en possession qu'une fois le testateur mort, est maintenant à la disposition de ceux pour lesquels il était promis, auquel il était destiné, parce que la mort est intervenue, le testateur est mort. Alors, le testament peut avoir toute sa validité. Et puis, tout ce qui devait être purifié, tout ce qui avait à être purifié, non seulement sur la terre et non seulement des hommes, mais les choses célestes elles-mêmes, sont effectivement purifiées, elles le sont déjà dans le principe, par le même sang. Toujours le sang de Christ, toujours la valeur de l'œuvre de la croix. Et nous avons donc ensuite, depuis le verset 18 jusque jusqu'au verset 23, cette purification des choses célestes elles-mêmes. Sujet important à considérer à sa place. Puis, à la fin du chapitre, à la fin, depuis le verset 24 jusqu'au verset 28, l'Esprit de Dieu présente cet autre aspect, cet autre côté de l'œuvre, cet autre élément d'assurance, de paix, d'espérance pour le croyant, de certitude dans la solidité de la base posée, et que cette œuvre est une œuvre définitive et une œuvre unique, faite une fois pour toutes et faite pour l'éternité. Et ensuite, alors, le chapitre 10 reprendra ces grandes choses pour en faire l'application aux croyants, pour nous amener au verset 19, à la grande invitation, c'est plus qu'une exhortation, l'énonciation du privilège qui est maintenant celui des croyants, de s'approcher, d'entrer dans le ciel même, de jouir des résultats de l'œuvre qui a été accomplie une fois pour toutes, selon toute la valeur du sang qui a été là versé et qui ensuite a été porté dans les lieux saints, ouvrant le chemin nouveau et vivant. Ce sont les autres choses, mais les grands sujets qui sont là placés devant nous dans ce que nous avons lu.
Regarde la croix et par la foi en la personne et en l'œuvre accomplie, jouit du pardon de ses péchés. S'il ne va pas plus loin, s'il n'entre pas davantage dans ces sujets glorieux qui viennent d'être présentés à notre méditation, il oublie, nous n'hésitons pas à le dire, le côté le plus important de l'œuvre de la croix. Dieu a été déshonoré par le péché de l'homme dans la mesure où on peut employer une telle expression. De fait, une barrière était établie entre le Dieu saint et l'homme pécheur. Une simple justification accordée aux pécheurs repentants. Le sentiment que Dieu ne lui demandera plus compte des péchés dont il est lavé par le sang de l'agneau. Si là s'arrêtait la connaissance des choses merveilleuses qui sont proposées ici à notre foi, ce serait vraiment ramener à soi-même, à ses propres besoins, un salut glorieux qui est un grand salut. Et si nous nous permettons d'insister sur l'absolue nécessité pour le croyant de se pencher sur ces sujets, de demander à Dieu d'ouvrir son cœur pour qu'il y entre par la foi, nous aurions perdu l'occasion non seulement d'une bénédiction approfondie quant à nos âmes, mais, nous le disons en toute sainte révérence, nous priverions Dieu de ce qui lui revient. De fait, le salut, le grand salut qui a été apporté par un Christ qui est venu, qui a souffert, qui est mort, qui a porté, qui est entré porteur de son sang dans le sanctuaire, ce grand salut, il a un but qui n'est pas notre propre satisfaction, notre propre soulagement. Il y a tout l'accomplissement des promesses de Dieu. Il y a la gloire de Dieu revendiquée. Pensons à la divine satisfaction de la justice divine. Le psalmiste disait au psaume 130, « Si tu prends garde aux iniquités, Seigneur, qui subsistera ?» Et il ajoutait, « Mais il y a pardon auprès de toi, afin que tu sois craint. » C'est le côté que nous appellerions élémentaire d'un sujet qui pourtant est rattaché au grand sujet du salut. Mais nous trouvons là, d'abord, l'agneau sur l'autel, selon l'expression remarquable du cher monsieur Bellet. Nous trouvons là les perfections de l'agneau sur l'autel, un développement par l'Esprit de Dieu de tout ce qu'a apporté à Dieu en satisfaction de justice, en glorification, l'œuvre accomplie par l'agneau sur l'autel. Les deux choses sont liées, cela va sans dire. En sorte que nous nous permettons, une fois de plus, et de tout notre cœur, de nous tourner vers les jeunes croyants, vers ceux qui pourraient dire que ces sujets sont vraiment ardus, qu'ils échappent à une intelligence spirituelle non encore bien éclairée ni affermie. Et nous leur disons, ne considérez pas l'œuvre du grand salut auquel vous avez part par la foi, seulement en ce qui concerne la satisfaction de vos propres besoins, mais pensez à celui qui, au moment même où il était livré, au moment même où il se livrait lui-même, a pu dire, quand le traître est sorti, « Maintenant, le Fils de l'homme est glorifié et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui-même, un continent sans délai, il le glorifiera. » Voilà le sens le plus élevé, celui qui nous jette sur nos faces de l'œuvre accomplie, de la satisfaction que Dieu a trouvée dans cette œuvre, des perfections de celui qui accomplit l'œuvre et de tout un champ de bénédictions qui se présente dès maintenant à nos cœurs par la foi quand la communion est vraiment avec le Père, avec son Fils Jésus-Christ. Et cela fait partie aussi. Nous pourrions dire que c'est la partie la plus excellente. Celle qui se réalise dans le culte en commun, cela fait partie aussi de la précieuse communion les uns avec les autres.
Il est bien possible que ce ne soit pas dans ces chapitres et cet épître que l'on trouve l'Évangile sous sa forme la plus simple. Mais tout évangéliste peut y trouver là puissante ressource dans son service vis-à-vis des âmes. Mais si nous considérons la place que tient le système juif dans l'ensemble des saintes écritures, nous n'avons pas de peine à comprendre que sans cet épître aux Hébreux, le Saint-Livre présenterait une grave lacune. Système juif, système laborieux qui, s'il en fut, c'est Dieu qui l'a donné. Il a mis l'homme à l'épreuve en le donnant. Il n'a pas été surpris des résultats. Mais nous assistons ici, dans cette épître, au merveilleux développement du Saint-Esprit pour nous montrer la mise de côté du système juif qui, à cause de ce qu'est l'homme, ne pouvait pas être efficace, et son remplacement par la réalisation de ce qui, même à travers le système juif, est représenté en image par lui, était la pensée profonde de Dieu.
système de juifs, a-t-on dit, était comme l'ombre d'un âne. Et la révélation qui nous est donnée ici, l'explication liée au christianisme, nous donne la réalité même de ce que pouvait faire prévoir déjà cette ombre. Et ces chapitres sont admirables, Dieu montrant ainsi que rien ne l'a surpris, que la ruine de l'âme est la nôtre, n'est-ce pas, car nous pouvons très bien nous placer parmi les Juifs quant à l'incrédulité et la dureté de cœur, n'a fait que lui donner l'occasion de déployer tous ses conseils d'ancienneté. Et le système des Juifs n'était pas les conseils d'ancienneté de Dieu. Et de montrer de quelle façon il a su revendiquer sa gloire au milieu de toutes ces ruines-là. Et il met en avant dans ses chapitres 9 et 10 le cœur même de la vérité, c'est-à-dire l'œuvre de l'expiation figurée par les sacrifices d'autrefois, mais en réalité accomplie seulement dans l'œuvre par la vie et surtout la mort expiatoire de Christ. Il n'y a évidemment pas de sujet plus profond et de sujet plus élevé que celui que nous avons demandé. Il nous place aussi devant ce que nous sommes tous, devant notre état véritable. Est-ce inutile, même pour les croyants qui ne sont plus jeunes dans le chemin de leur foi? Certainement pas.
Ce système lévitique ancien qui subsistait comme le système judaïque au moment où l'épître était écrite, tous les détails, on peut dire, comme aussi les grands faits, les grandes lignes de ce système, les grandes fêtes, les rites essentiels, les grands sacrifices, comme aussi bien ce qu'on pourrait appeler les détails des sacrifices individuels, tout venait faire ressortir cette impossibilité totale pour l'homme, même placé dans les meilleures conditions, de pénétrer jusqu'à Dieu. Et c'est ce qui est rappelé ici, après ce qui est dit du tabernacle, au verset 6, « Ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs entrent constamment dans le premier tabernacle, accomplissant le service, un service que Dieu avait institué, qu'ils pouvaient accepter, mais non pas selon la valeur propre, ni de ceux qui officiaient là, ni de ce qu'ils offraient, mais seulement sur la base de ce qui n'était là que des figures. Ce dont tout ce qui s'accomplissait là était la figure, c'est-à-dire Christ et Christ s'offrant en sacrifice, holocauste d'agréable odeur, sacrifice pour le péché, répondons à tous les droits de Dieu. On a parlé avec raison d'un système laborieux, d'un système compliqué, comme si l'homme était examiné de tous les côtés, mis à l'épreuve, dans le détail comme dans les grandes choses, dans la délivrance d'un peuple comme dans ce qui était nécessaire pour une souillure d'un moment. Tout était toujours à recommencer. Tout était toujours à recommencer. Jamais la conscience n'était purifiée de ce qui est appelé les œuvres mortes. Et quand, une fois par an, c'est-à-dire au grand jour des expiations, le sacrificateur, le grand sacrificateur, entrait dans le lieu très saint avec le sang de victime qui avait été offerte d'abord pour lui, puis pour le peuple, avec l'encens d'autre part. Il présentait cela. Le sang était placé sur le propitiatoire, le couvercle de l'arche, et puis il fallait ressortir. Le chemin n'était pas ouvert. Comme si Dieu permettait à l'homme de frapper à la porte, et la porte ne pouvait pas s'ouvrir. Dieu restait caché, et l'homme ne pouvait avoir accès vers lui. Tout dans ce système était toujours à recommencer. Nous retrouverons cela d'une manière saisissante au début du chapitre 10.
Les relations avec Dieu ne peuvent pas être établies n'importe comment. Et Dieu est un Dieu d'amour et de grâce, mais on ne s'approche pas de lui comme l'on veut. Et il ne le permet pas. Il n'y a qu'un chemin d'accès jusqu'en sa sainte présence. Il est le même pour tous ceux qui auront ce privilège. Dieu ne peut jamais changer. Et ces considérations sont utiles dans les jours du christianisme professant les siècles, qui durent depuis des siècles. Le christianisme tel qu'on l'a conservé ou tel qu'on le fait depuis bien des années, des dizaines d'années, des siècles, n'apaise jamais la conscience d'un homme, ne la rend jamais parfaite. Parce que justement, souvent, on voile la partie essentielle de la vérité. Sacrifice expiatoire. N'oublions pas non plus, et cela est valable pour toujours, mais spécialement pour ces passages-là, n'oublions pas non plus que tous ceux qui ont le privilège de s'approcher, qui sont approchés, tous ceux-là ont été au bénéfice d'une œuvre intérieure. Nous avons là, dans notre étude, l'œuvre extérieure qui s'est accomplie en dehors de nous, l'œuvre expiatoire, nous n'y étions pas, là, personne n'y était, nous y étions par nos péchés. Mais tout cela ne prend sa valeur, sa force et sa puissance, la réalité, que lorsque le Saint-Esprit a agi dans une âme pour la mettre en relation avec Dieu, et ouvrir cette âme à la réception de toute la vérité divine. N'oublions pas ce côté intérieur subjectif et ne pensons pas qu'une étude extérieure de cet admirable chapitre peut nous faire avancer s'il n'y a pas la foi pour recevoir la vérité qu'il contient.
Il est intéressant de constater l'importance du Saint-Esprit dans cet épître aux Hébreux. Il est mentionné pas moins de 7 fois. Nous avons dans notre lecture au verset 8 l'Esprit Saint indiquant ceci, que le chemin des lieux saints n'avait pas encore été manifesté. Il y avait 2 tabernacles, comme il est dit ici dans notre chapitre 9, un premier tabernacle, le lieu saint, dans lequel entraient les sacrificateurs, un second tabernacle, le lieu très saint ou le saint des saints, dans lequel seul le souverain sacrificateur pouvait entrer. Et alors, l'apôtre nous dit ceci, que l'Esprit Saint indiquait cela, que le chemin des lieux saints, de la présence même de Dieu, n'avait pas encore été manifesté. Il sera manifesté avec le verset 11, quand nous lisons ce petit mot si important, mais Christ étant venu. L'Esprit Saint est donc mentionné pas moins de 7 fois dans cet épître aux Hébreux. 5 fois, l'Esprit de Dieu est appelé l'Esprit Saint. 1 fois, l'Esprit éternel dans notre chapitre. Et enfin, 7e et dernière fois dans le chapitre 10, l'Esprit de grâce. C'est au chapitre 2e que nous avons la première mention de l'Esprit Saint en rapport avec ce que Dieu avait accordé à ses apôtres, ses serviteurs, Dieu rendant témoignage avec eux par des signes et des prodiges et par divers miracles et distributions de l'Esprit Saint selon sa propre volonté. Hébreux 2, 4. Au chapitre 3e, il y a cet appel solennel tiré du psaume 95. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Ce mot solennel, en effet, de aujourd'hui, Dieu parle aujourd'hui et que l'on trouve pas moins de 5 fois dans les chapitres 3 et 4 de cet épître. L'Esprit Saint est-il dit au verset 7? Comme dit l'Esprit Saint, et le psaume 95 est rappelé, c'est un appel adressé à ceux qui sont entrés dans l'enceinte du christianisme, mais simplement comme professant, sans avoir la vie de Dieu. Et dans le 3e passage, au chapitre 6, nous avons précisément ce tableau de ces professants, auxquels de très nombreuses bénédictions ont été accordées et sont accordées, mais dont la fin est terrible. Il est dit d'eux qu'ils crucifient pour eux-mêmes le Fils de Dieu et l'exposent à l'opprobre. Et bien au verset 5 du chapitre 6, nous avons la 3e mention de l'Esprit Saint. Ils sont devenus participants de l'Esprit Saint. Non pas qu'ils aient l'Esprit Saint en eux, ils auraient la vie de Dieu, mais ils ont connu les bénédictions que Dieu a accordées et accorde par son Saint-Esprit. Nous avons alors dans notre chapitre 9, 2 fois la mention du Saint-Esprit, le passage dont nous parlons maintenant au verset 8 et au verset 14e, Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache, c'est lui qui purifiera nos consciences des œuvres mortes. Au chapitre 10, nous avons encore la mention de l'Esprit Saint, Il nous est dit au verset 15 que l'Esprit Saint rend témoignage et rend ce témoignage sur lequel nous aurons l'occasion de revenir, si Dieu le permet, ce témoignage qui ne peut que remplir d'une paix infinie et d'une assurance infiniment douce toute âme qui est venue au Seigneur. Après un tel témoignage, le trouble dans une âme pieuse, dans une âme chrétienne, n'est plus permis. C'est Dieu lui-même qui rend ainsi témoignage par son esprit et qui dit « Je ne me souviendrai plus jamais de leurs iniquités ni de leurs péchés ». Et enfin, dans le même chapitre 10, la septième mention de l'Esprit de Dieu à la fin du verset 9, quand il est parlé de quelqu'un qui a pu outrager l'Esprit de grâce. En effet, le Saint-Esprit est cela, il est l'Esprit de grâce. En ce temps-là, l'Esprit de Dieu agissait comme tel. C'était l'Esprit de grâce par lequel la grâce de Dieu était annoncée, et sur le pied seul de la grâce de Dieu, on pouvait devenir un chrétien, appartenir de fait au christianisme. Mais alors, mépriser l'Esprit de grâce était quelque chose de terrible, et c'est quelque chose de terrible quand on pense que celui qui en Israël osait mépriser la loi, il était puni de mort, sans miséricorde. Alors l'apôtre de dire, mais que sera-t-il réservé à celui qui ose mépriser l'Esprit de grâce? Mépriser l'Esprit de grâce, n'en rien vouloir, l'Esprit Saint, le Saint-Esprit lui-même, c'est alors mériter rien moins que la seconde mort, l'éternelle mort. Eh bien voilà, le Saint-Esprit, qui est ainsi mentionné cette fois dans cet épître, ce qui nous montre l'importance du Saint-Esprit dans cet épître aux Hébreux. C'est par l'Esprit, en effet, que Dieu nous montre tout ce que représentaient les figures et les ombres de l'Ancien Testament, concernant le tabernacle en particulier, et qui nous amène à comprendre ce qu'est aujourd'hui, ce que le chapitre 8 appelle le vrai tabernacle, le tabernacle qui n'est pas fait de main, un tabernacle céleste, c'est-à-dire la présence même de Dieu. Dans ce tabernacle, dans la présence même de Dieu, on ne peut entrer que par un seul moyen, moyen unique, l'effusion du précieux sang du Seigneur Jésus.
A toujours eu une action, a toujours opéré à l'égard de croyants. Dans l'Ancien Testament, il y a eu tous ceux qui, effectivement, ont reçu la parole, les promesses de Dieu, mais aussi les enseignements qu'il donnait de façon figurée, typique, et le Saint-Esprit rendait par avance. Et d'abord dans les prophètes eux-mêmes, comme montre l'épître de Pierre, premier chapitre, des souffrances de Christ et des gloires qui suivraient. En d'autres termes, il tournait les regards des croyants vers l'avenir. Il leur indiquait, l'expression que nous avons ici, je crois, est ses caractéristiques, l'Esprit Saint indiquant ceci. Cela nous l'indique à nous maintenant, sans doute, mais c'était propre à l'indiquer aussi aux fidèles, aux saints, aux croyants de l'Ancien Testament. qu'est-ce qu'il indiquait? Eh bien, tous les sacrifices qui sont faits, et en particulier ce qui est accompli en ce grand jour des expiations, tout cela est bien selon la volonté de Dieu, selon la pensée de Dieu, mais ne répond pas définitivement, ne répond même pas en aucune mesure aux besoins profonds d'une conscience atteinte par la parole de Dieu et qui sent son péché. Les choses sont remises à plus tard, les choses sont recommencées, alors regardez vers l'avenir. Leur regard était tourné vers l'avenir. Leur foi attendait, eh bien, le moment où Dieu donnerait la réalité de ces types. Jusque-là, ce n'était que des ombres, ce n'était que des figures. Ce qui se passait dans le secret des âmes est autre chose. Dieu se servant tout le système religieux lui-même pour, je le répète, amener à cette conviction que rien offert de la part des hommes et de l'homme ne pouvait satisfaire à la justice de Dieu et permettre à l'amour de Dieu de se déployer librement. La foi attendait quelque chose de meilleur. C'est si remarquable que c'est une chose qui m'a souvent frappé, et que dans l'Ancien Testament et dans le Lévitique et dans toutes les prescriptions relatives au culte israélite, on trouve toutes les choses comme des choses extérieures. Il n'est rien dit des sentiments des sacrificateurs. Sacrificateur exerce, fait son service, sacrificateur offre les sacrifices, égorge les victimes, les prépare, il prépare l'encens, enfin tout ce qui a lieu, tout ce qui se faisait dans le tabernacle, mais sauf quelques allusions ou quelques traits, nous n'avons pas de travail de conscience qui nous soit dévoilé, ces secrets. Ne répondait à ce besoin qui reste pourtant le besoin profond de toute âme qui prend un peu conscience de sa misère, le besoin que le péché soit ôté. Dieu dit, il sera ôté un jour, remettez-vous-en à ma grâce, remettez-vous-en à moi-même pour l'accomplissement au moment voulu. Aujourd'hui, c'est autre chose. Le Saint-Esprit est le Saint-Esprit descendu sur la terre, le Saint-Esprit ici-bas, le Saint-Esprit dans chaque croyant, le Saint-Esprit dans l'Église, le Saint-Esprit opérant au milieu de ce monde de manière à le convaincre de justice, de péché et de jugement. Le Saint-Esprit rend témoignage que ce qui avait été promis a été accompli, que l'œuvre de la rédemption éternelle, l'œuvre d'expiation par laquelle est obtenue une rédemption éternelle a été faite, et que Dieu a montré sa pleine satisfaction en ressuscitant Jésus-Christ d'entre les morts et en le faisant asseoir à sa droite. C'est là le témoignage qui est celui du Saint-Esprit, c'est là le véritable et plein évangile qui montre les droits de Dieu parfaitement satisfaits et sa grâce offrant aux pécheurs la réconciliation sur la base d'une œuvre qui a été accomplie. Alors, refusez ce témoignage. C'est bien outrager l'esprit de grâce. Et peut-il y avoir quelque chose de plus coupable? Peut-il y avoir quelque chose de plus terrible? Mais pour le croyant, pour l'enfant de Dieu, ne désire-t-il pas que le Saint-Esprit l'occupe et toujours davantage, non seulement de l'œuvre, mais de celui qui donne sa valeur à l'œuvre, de la personne même, et de celui qui a tout fait, et de celui qui est l'objet de la foi. Et c'est pourquoi nous avons les épîtres, et c'est pourquoi nous avons l'épître aux Hébreux, et c'est pourquoi nous avons ce chapitre et ces chapitres magnifiques. Sans compter que si Christ est entré dans les lieux saints, et qu'il y est, et qu'il est à la droite de Dieu, c'est pour y exercer la sacrificature. Quand il s'offrait en sacrifice, ce n'était pas comme sacrificateur, n'est-ce pas? Il n'y avait là aucune sacrificature. Quand il nous est dit ici, Christ étant venu, c'est Christ étant venu comme sacrificateur. Nous sommes par-delà la croix. La preuve, c'est qu'il est dit, ayant obtenu une rédemption éternelle. C'est une fois l'œuvre faite, l'expiation faite, que, ayant en main, pour ainsi dire, dans ses mains, cette pleine rédemption éternelle qu'il a obtenue, avec son propre sang, il entre dans les lieux saints, et là, que fait-il? Il y exerce sa sacrificature. Il l'exerce en faveur ceux qui sont sur la terre. Il ne s'agit pas maintenant, dans le christianisme, pour les croyants, de les mettre à l'épreuve quant à leur salut. Autrefois, c'était cela, épreuve de l'homme. Cela a été rappelé, et c'est très important. Mais il y a un changement complet maintenant, Christ étant venu, les croyants sont placés sur un tout autre terrain. Ah, ils ont affaire avec la justice de Dieu. Ils ont affaire avec la sainteté de Dieu, mais comme enfants de Dieu. Ils sont placés sous la discipline paternelle. Ils sont placés sous un gouvernement de Dieu qui est la discipline du Père. Mais ils sont nullement mis à l'épreuve. L'épreuve a été faite. Elle a eu son point culminant à la croix. Et maintenant, dans le christianisme, il n'est plus question de mettre l'homme à l'épreuve. Pour les inconvertis, ce qu'est l'homme a été démontré. Pour les croyants, ils sont appelés à faire l'expérience de ce qu'est leur vieille nature et que sa place est dans la mort, mais ils n'ont rien à apprendre d'autre que ce que la parole leur présente et ce que l'œuvre de Christ, la mort expiatoire de Christ, met devant eux de la manière la plus éloquente qu'il puisse y avoir.
C'est une condition où l'homme ne soit responsable tant qu'il est sur la terre. Les Juifs l'étaient à leur place et ils n'ont pas accompli la loi et n'ont pas pu avoir la vie par ce moyen-là. Et Dieu a ouvert devant eux, ouvre devant eux dans l'Épître le chemin de la vie qui est tout autre. Les nations, les païens dont nous étions, n'est-ce pas, n'ont pas besoin de se faire juifs pour entrer dans la bénédiction chrétienne. Ils pourront y entrer directement, mais par la foi. Tout ce qu'annonçait en figure les sacrifices du système lévitique et qui a été accompli par Christ à la croix, nous pouvons y entrer directement, par la foi, à condition de la foi. Quand nous avons reçu cette foi, nous avons une responsabilité, non pas pour acquérir la vie et devenir juste, responsabilité d'être des croyants fidèles. Cela reste toujours. Cela ne touche pas à l'œuvre de Christ. La valeur de Christ est décisive, permanente pour n'importe quel homme. Mais si un chrétien a compris cela, il ne sera pas conduit
à se comporter à la légère en présence de choses aussi solennelles que celles que ces chapitres nous présentent. Il n'y a rien de comparable à cela. La rencontre de Dieu dans sa gloire, ses exigences, sa justice, et avec son Saint-Fils pendant les trois heures sombres de la croix. C'est cela qui est au cœur même de ces passages. L'intention de l'Esprit de Dieu en rapport avec le sujet qui est devant nous, il me paraît qu'elle a été exprimée par notre Seigneur à la Samaritaine. Le Père en cherche de tels qui l'adorent. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Il est moins tant question dans ce chapitre des bénédictions, des privilèges, que de la responsabilité de rendre culte. Le premier verset l'indique, il y avait des ordonnances pour le culte, et le culte ne pouvait pas être rempli. Quand on pense que l'acte principal, celui du grand jour des expiations, quand le souverain sacrificateur entrait, non sans du sang, et que l'offrande de la victime allait permettre à Dieu de prolonger encore pendant une année sa patience à l'égard des péchés précédents. Lorsqu'il rentrait là, il n'y rentrait pas. Ce n'était plus possible depuis le péché de ses fils. Aaron n'y rentrait pas, vêtu de ses vêtements de gloire et d'ornement. Il n'y avait pas sur ses épaules les noms des 12 tribus gravés, ni sur le pectoral également le nom des 12 tribus. Rien ne paraît plus évident pour nous montrer que le chemin des lieux saints ne nous était pas ouvert. C'est que le grand souverain sacrificateur ne présentait pas alors à Dieu son peuple sous l'aspersion du sang. Il était revêtu de fin lin, de service accomplissé dans le sérieux et dans l'ombre, mais il n'y avait pas d'accès, il n'y avait pas de possibilité pour le croyant juif de rendre culte. Mais maintenant, et c'est ce que nous avons ici au verset 14, maintenant, il est possible de rendre culte. La conscience, notre conscience est purifiée des œuvres mortes pour que nous servions le Dieu vivant. Et la note est de toute importance. Rendre culte. Offrir à Dieu cette adoration que l'œuvre de son Saint-Fils lui permet maintenant de recevoir de la part de ceux qui non seulement ne sont pas justifiés, mais sont approchés, mais occupent une place devant lui, connaissent une position en Christ telle qu'ils ont la conscience purifiée. Ils n'ont plus le sentiment du péché. Est-ce que cela veut dire que nous allons nous approcher le dimanche sans être venu la cuve des reins? Pas le moins du monde. Mais cela signifie que pour pouvoir rendre culte, il faut avoir la conscience purifiée. Et la conscience ne peut être purifiée que par selon l'application, la valeur du sang du Christ. Combien plus le sang du Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même à Dieu sans tâche, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes pour que jouissiez de votre salut, pas le moins du monde. Pour que vous serviez, vous rendiez culte au Dieu vivant. Finalement,
Voilà le service le plus excellent. Entre tous les services, il excelle. Être des adorateurs. Comment allons-nous pouvoir adorer Dieu? Si en nous présentant à lui, il reste dans notre conscience quelque chose qui n'est pas à l'aise. C'était ce qui faisait qu'Adam se cachait derrière les arbres du jardin. Il n'avait pas la conscience purifiée. Elle était lourdement chargée. Mais si nous réalisons par la simple foi, en acceptant ce que Dieu lui-même nous propose de saisir par cette foi, pour que nous soyons établis sur le fondement d'une œuvre accomplie. Si la conscience est purifiée, entièrement purifiée, dans l'acceptation de la position qui maintenant est faite aux croyants, c'est un acte d'humilité, c'est ce qui nous jette sur nos faces. Accepter la position qui est celle de tout croyant en Christ. Combien plus le sang du Christ. Il y avait eu autrefois la purification par le sang et puis par les cendres de la victime. Cela reporte à deux opérations distinctes en rapport avec le fait que le péché était expié et que même il n'y en avait plus de mémoire. Mais maintenant, nous avons l'œuvre accomplie. Et celui qui prend la louange des siens et qui, avec sa lame d'or, purifie l'iniquité des saintes offrandes, il est maintenant le chef d'une souveraine sacrificature. Et le privilège du croyant, c'est de lui être associé sur la base de la valeur de son sang, afin de servir, de rendre culte au Dieu vivant. Le côté de ce qui est dû au Père n'est ici pas touché. Mais comme on y a insisté, Dieu satisfait dans sa justice, pouvant dire « Je ne me souviendrai plus jamais de leurs péchés ni de leurs iniquités » en tant que maintenant nous nous approchions et que nous lui présentions l'hommage de nos cœurs, l'adoration qui lui revient, que nous lui rendions culte dans la connaissance de ce qu'il est, tel qu'il s'est révélé à nous en Jésus-Christ. C'est bien là un second effet, précieux entre tous, quant à ses résultats pour Dieu, de l'œuvre du Christ. Et nous avons à y être sensibles, nous avons à considérer comme plus précieux, plus précieuse que tout, la position du croyant en Christ, dont la conscience est purifiée pour pouvoir servir, pour servir le Dieu vivant.
Ce qui pourrait avoir l'air d'être de la prétention et qui en serait si la foi n'était pas réelle, est en réalité ce qui met en évidence et à sa gloire la valeur du sang de Christ. Valeur qui est telle que non seulement un misérable pécheur est pardonné, mais qu'il peut servir Dieu, comme on vient de nous le dire. C'est bien supérieur, et c'est l'intention ancienne de Dieu à cet égard, le servir d'une façon que Dieu puisse agréer. Bien facile de servir, mais c'est un sujet qui est instructif de voir dans l'Ancien Testament combien de fois le Saint-Esprit, le Seigneur, rejette les offrandes. Ôte devant moi le bruit de tes cantiques, le son de tes luttes. Quand même tu élèveras les mains, je mettrai mes mains sur mes yeux, Ésaïe au début. Et combien de passages? Un culte qui n'est pas selon Dieu, et d'abord, qui n'est pas rendu par quelqu'un qui est dans la, qui a reçu la qualification de la part de Dieu pour adorer, et ou qui, à la suite de cela, hélas, ça concerne bien tous, n'est pas dans un état pratique suffisant pour le faire, ce n'est pas un culte selon la pensée de Dieu. Mais la conscience est parfaite, voilà le mot qui est dans notre passage, rendue parfaite. Et ce n'est pas une conscience innocente, c'est la conscience de personnes qui connaissent le bien et le mal. Cette conscience est parfaite en vertu de l'œuvre de Christ, de l'expiation, du sang versé. C'est une sorte de position quant à de la conscience devant Dieu. Il n'y a pas plus de mise en question, de remise en question à ce sujet-là. C'est définitif. Mais alors, notre exercice, c'est que notre état pratique de notre conscience ne nous empêche pas de donner à Dieu et au Père et au Fils la joie qu'ils attendent des adorateurs. La relation n'est pas indiquée ici, mais la relation de Père et de Fils, de Père et d'enfant, et du Fils et de l'Église. Il n'y a pas la relation, mais il y a la condition, et tout cela en rapport avec le sacrifice sanglant de Christ. C'est très élevé, très saint, et le fondement de tout.
Tout le monde comprend combien ces choses sont en effet importantes, capitales, à bien saisir. Et il est frappant de voir ici comment le contraste est mis entre le culte d'autrefois, le culte d'un système religieux, le seul que Dieu ait reconnu, ait établi, et le culte en esprit et en vérité. Verset 9, il nous est dit que le tabernacle, qui avait encore sa place lorsque l'épître était écrite, lequel, est-il dit, est une figure pour le temps présent, n'est-ce pas, le temps présent, c'est le temps où la première alliance subsistait, où Dieu laissait encore le système judaïque. Il a pris fin avec le christianisme, les juifs persistaient encore dans celui-là. Mais tout le temps qui s'était écoulé jusqu'alors, sous ce système judaïque, c'était le temps présent, dans lequel sont offerts des dons et des sacrifices, mais qui ne peuvent pas rendre parfait quant à la conscience celui qui rend le culte. Culte qui consiste seulement en viande, en breuvage, en diverses ablutions, ordonnances charnelles, imposées jusqu'au temps du redressement. Comment la conscience aurait-elle pu être rendue parfaite quand rien ne s'adressait à elle, sinon des figures par lesquelles le Saint-Esprit pouvait parler à l'âme. Mais Dieu ne demandait que ces figures, et alors on se contentait de ces figures, et le culte consistait dans ces figures-là. Un culte, viande, breuvage, ablution, ordonnance charnelle, pourvu que le Juif accomplit tout cela fidèlement, il avait satisfait à sa religion. N'est-ce pas le cas encore aujourd'hui pour beaucoup qui, pourvu qu'ils aient satisfait à des obligations extérieures, à des rites religieux, pensent que tout ira bien pour eux, que tout est réglé pour eux, et ils s'en remettent à ceux qui s'établissent ministres de leur religion. Mais c'est que maintenant les choses sont tout autres. Nous avons alors en contraste au verset 14, le sang de Christ purifie pour la pure. Si le sang de bouc sanctifié pour la pureté de la chair, dont de façon tout à fait extérieure pour permettre simplement l'exécution de ces ordonnances charnelles. Combien plus le sang du Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même à Dieu sans tâche, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes pour que vous serviez le Dieu vivant? Voilà l'Esprit éternel qui est mentionné, non plus seulement pour indiquer que le chemin des lieux saints n'avait pas été manifesté, mais pour attester que la rédemption éternelle a été obtenue, que la question des péchés et du péché a été réglée devant Dieu. Les œuvres mortes, c'était pas forcément des mauvaises œuvres, c'était toutes les œuvres qui étaient accomplies par simple obéissance extérieure, sans que la conscience eût été purifiée, sans nécessiter la nouvelle naissance, celle qui était demandée à l'homme selon la chair, c'est-à-dire l'homme encore mort, mort dans ses fautes et dans ses péchés, et ses œuvres étaient mortes parce que celui qui les faisait était mort. Tant que l'on demande des œuvres religieuses à quelqu'un qui n'a pas la vie, ce sont des œuvres mortes. Et les œuvres qui ne sont pas accomplies dans la puissance de la vie nouvelle et selon l'esprit de la vie nouvelle restent des œuvres mortes. Mais alors, combien plus ce sang purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes pour que vous serviez le Dieu vivant? Servir, dans les deux cas, n'est-ce pas celui qui rend le culte, au verset 9, ou pour que vous serviez, c'est le même mot, le même verbe dans l'original, en grec. Et il signifie, comme la note nous l'indique, de façon très juste, rendre culte, ailleurs servir, c'est s'approcher de Dieu avec des prières ou en offrant, en quelque manière que ce soit, un service religieux. Pour celui qui a été éclairé, pour le chrétien qui a entendu et reçu les enseignements de la parole et avant tout ce qui nous a été rappelé du chapitre 4 de Jean, de ce que le Seigneur disait à la Samaritaine, il s'agit de rendre culte en esprit et en vérité, et non plus par des choses extérieures, des choses charnelles, des choses telles qu'elles nous étaient énumérées tout à l'heure. Et cela vise, évidemment, au premier chef, l'adoration, la louange collective de l'Église, mais cela va plus loin. Cela embrasse en réalité toutes les relations effectives que l'âme régénérée doit avoir, est appelée à avoir, a le privilège d'avoir avec Dieu. Et le même terme de servir se retrouve, comme on le sait, dans le chapitre 12 de l'Épître aux Romains, quand il nous est dit de présenter nos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui est votre service intelligent, et ce service-là, c'est le même mot que le culte que nous avons ici. Autrement dit, c'est la vie entière du croyant qui est appelée à être un service qui peut se manifester, s'exprimer, s'accomplir, suivant différentes modalités, suivant ce que le Seigneur place devant nous, mais qui, si cela était réalisé comme cela doit être, est continuellement quelque chose qui montrait devant Dieu comme un sacrifice acceptable, agréable. Nous retrouverions là bien d'autres expressions, d'autres passages, des évangiles, tous, tiens, des épîtres. Tout se tient dans la vie chrétienne. Et comment offrir ce qu'il y a de plus élevé, c'est-à-dire le culte à proprement parler, le culte d'adoration et de louange, si le reste de la vie est consacré au monde ou à notre propre satisfaction. La question demeure sur nos consciences. Mais, de toute manière, pour rendre culte, pour servir le Dieu vivant, il faut premièrement avoir la vie. Des morts ne peuvent pas servir le Dieu vivant. Ils ne peuvent pas apporter des œuvres vivantes, c'est-à-dire des œuvres de foi, les véritables bonnes œuvres, ce que Dieu a préparé à l'avance pour que nous marchions en elles, s'il est encore dans ses péchés, si sa conscience n'a pas été purifiée, c'est-à-dire si il n'a pas, par la foi en Jésus-Christ et en son œuvre expiatoire, reçu cette vie nouvelle dans laquelle le Saint-Esprit agit, opère, pour produire ce qui est agréable à Dieu. C'est le point de départ fondamental, n'est-ce pas? Nous revenons sans cesse sur ce point, mais c'est bien le cœur même de ces chapitres. Rédemption éternelle qui a été obtenue. Rédemption que Dieu a reçue, a agréée, de telle sorte que quand Christ entre dans les cieux avec son propre sang, tous ceux qui sont sous l'aspersion de ce sang, tous ceux qui croient en lui et qui s'approchent par lui, se trouvent dans la même position que celui qui est entré ainsi dans les lieux saints. Ils sont vus par Dieu comme il est vu lui-même. Regarde, ô Dieu, et vois la face de ton oint. C'est cette pureté absolue, et non seulement la pureté intrinsèque, la pureté qu'il avait par lui-même, étant sans péché, mais la pureté de celui qui a aboli le péché par son sacrifice, qui entre ainsi dans le lieu saint. Et ceux qui lui appartiennent y entrent avec lui. Leur conscience ne peut être tranquille. Elle est purifiée quant à la culpabilité du péché. Et le jugement ne peut pas les atteindre. Le jugement est passé. Il a été porté par Christ sur la croix. Qu'ensuite, sur cette terre, alors nous ayons, parce que nous avons encore la vieille nature en nous, et que nous ayons tant de choses qui nous empêchent de réaliser tout ce que cette position comporte d'heureux, mais à la gloire de Dieu. C'est un autre côté, c'est pourquoi alors la discipline paternelle intervient et que nous avons à obéir à la parole et que nous avons continuellement à nous juger combien tout cela est important à sa place. Mais cela ne pourrait être en aucune manière si d'abord il n'y avait eu la conscience purifiée, et cela par l'aspersion du sang de Christ, aspersion qui n'a pas à être renouvelée pour le croyant. Elle a été faite une fois pour toutes. Oh, combien nous désirons que tous ici aient bien saisi ces grandes choses, ces choses capitales. Et nous sommes placés sur le même terrain, dans la même position que Christ. C'est pourquoi lui intercède pour nous dans le ciel. C'est pourquoi nous, sur la terre, nous sommes appelés à servir le Dieu vivant dans ce culte continuel qui peut avoir des accents et des moments particulièrement bénis. Tout cela va ensemble On ne peut pas séparer ces choses, ou plus exactement, leur point de contact, c'est toujours le sang de Christ, l'œuvre accomplie. Dans la pratique des choses, nous savons ce qui doit intervenir, c'est ce qui a été présenté tout à l'heure par l'allusion au lavage des sacrificateurs, dans lavage des pieds, dans la cuve des reins. C'est ce qui nous est représenté par le lavage des pieds, et il y a une allusion ici, dans cela même que nous avons lu, toujours par contraste avec ce qui avait lieu autrefois, si le sang de bouc et de taureau, voilà le sang, la figure du sang de Christ, mais ensuite, et la cendre d'une génisse avec laquelle on fait aspersion sur ceux qui sont souillés, c'était l'eau dans laquelle on avait placé la cendre de la génisse consumée. Ce n'était pas un nouveau sacrifice, ce n'était pas une nouvelle aspersion du sang, c'est la figure du lavage des pieds que nous avons là. Eh bien, tout cela n'était autrefois que des figures, ça ne pouvait pas purifier la conscience, on pouvait accomplir ces choses-là sans que la conscience fût purifiée. Maintenant, la réalité des choses ne peut avoir lieu, ne peut intervenir que la conscience purifiée, le croyant établi sur ce fondement d'une réconciliation totale, d'une perfection qui est celle de Christ devant Dieu. Il s'agit essentiellement tout ce passage, et c'est ce que nous présente le grand jour des expiations, la valeur du sang de Christ pour Dieu lui-même. Et alors, la conscience est purifiée lorsqu'elle a compris, n'est-ce pas, elle jouit de cette purification, lorsqu'elle a compris que Dieu a été pleinement et entièrement satisfait.
Connaissons ces deux passages où il est dit: celui qui nous aime, qui nous a lavé de nos péchés dans son sang, et il nous a fait un royaume des sacrificateurs pour son Dieu et Père. C'est supérieur à un don, cela. Et tous les vrais croyants sont dans cette position-là. Les sacrificateurs étaient ceux qui étaient les plus près du sanctuaire. Puis les Lévites et puis le peuple. L'adorateur, sacrificateur, réalise cette proximité avec Dieu. Il s'adresse à Dieu lui-même directement. Une chose à laquelle nous avons à prendre garde encore une fois, c'est de ne pas nous accoutumer à cela. Vaut mieux parler très peu des choses saintes que d'en parler trop, sans exercice, sans réalité, dans l'état de l'âme. L'importance, pour ce qui est de la pensée de Dieu, mais aussi pour ce qui est de notre service devant lui, l'importance du sujet qui vient d'être placé devant nous, la position du croyant en Christ, tel il est, lui, tel nous sommes maintenant dans ce monde. Et cela ne s'acquiert, cela ne se reçoit que par la simple foi. Il n'y a pas d'autre moyen que de croire ce que la parole de Dieu nous présente, recevoir le témoignage de Dieu au sujet de son Fils, recevoir le témoignage de l'Esprit Saint pour pouvoir réaliser le pourquoi de notre passage dans ce monde.
assis avec le Christ dans les lieux célestes. Par lui, porté sur son cœur et sur ses épaules, en la présence de Dieu, paraissant pour nous devant sa face. Tout cela doit avoir comme résultat, comme, je dirais, comme but divin, la louange montant vers lui sur son trône. Combien d'âmes en sont encore dans la situation douloureuse des croyants au livre des psaumes? Je me rappelle cette comparaison que nous donnait le cher monsieur Prodan. Le croyant dans le livre des psaumes, c'est quelqu'un qui pour un moment reçoit ce fait que la dette de ses péchés est payée. Et pour un moment, il surnage. Et puis, voilà que, comme le débiteur qui rencontre au coin d'une rue son créancier, il n'a plus la conscience que la dette est payée. Il oublie, il n'a pas la quittance, son reçu de la grâce. Et le résultat, eh bien, il monte aux cieux, il descend aux abîmes. Il ne peut pas y avoir de service intelligent. Et en particulier, particulièrement pour le culte, si la conscience n'est pas purifiée, elle ne pouvait l'être, elle ne l'est, que par la valeur du sang du Christ.
Est-il surprenant que le service vis-à-vis de Dieu ait une place prééminente et passe avant des services que les saints peuvent avoir à remplir vis-à-vis des hommes ou vis-à-vis des saints? Est-il surprenant que Dieu soit en toute chose celui auquel nous avons à penser d'abord, celui auquel nous penserons d'abord si notre âme est en bon état, car le Saint-Esprit nous conduira toujours dans ce sens-là? Et nous avons à considérer de quelle manière il nous arrive facilement d'oublier Dieu pour d'autres services. Un frère a dit cette très forte parole. Ne mettez pas le service à la place de l'Holocauste.
Que nous ne puissions pas accomplir quelque service que ce soit sans avoir le sentiment qu'en l'accomplissant nous servons Dieu. N'est-ce pas? C'est ce qui donne à tout service sa valeur. Donner un verre d'eau froide à l'un de ses petits, c'est rendre service au Seigneur lui-même. Mais, hélas, comme nous l'oublions en effet,
Un brillant modèle vivait cela, qui nous laisse cette parole. Pour moi, vivre, c'est Christ, c'est Dieu. Et pourtant, il n'a pas été un paresseux.
Servir, qui veulent dire quelque chose de différent. On a rappelé au début du chapitre, il est parlé du service intelligent. C'est le mot culte, ce qui est votre culte intelligent. Dans l'Épître aux Hébreux, d'une façon particulière, nous avons ce verbe servir dans notre passage. Pour que vous serviez le Dieu vivant, on nous l'a dit, nous l'avons entendu. C'est donc rendre culte au Dieu vivant. Mais dans la suite de ce chapitre 12 de l'Épître aux Romains, il y a aussi cette exhortation servant le Seigneur. Quant à l'activité, pas paresseux, fervents en esprit, servons le Seigneur. C'est un autre mot. Du reste, la note le dit. Servant le Seigneur, c'est alors là servir dans le sens d'accomplir un service, celui que le Seigneur nous a confié, de réaliser que nous sommes des serviteurs et même des esclaves du Seigneur. Mais le premier service, c'est le culte, ce qui est votre culte intelligent. Dans notre chapitre, pour que vous serviez ou pour que vous rendiez culte au Dieu vivant. C'est là le premier service. Et il est certainement très regrettable de voir tant de croyants mettre avant le service du culte, qui est le premier, toutes sortes de services, d'activités, certainement bonnes à leur place, mais qui n'ont pas aux yeux de Dieu la première place. Le premier service qui est demandé d'un croyant, c'est le service de l'adoration, c'est rendre culte. Il est remarquable, dans notre chapitre, il soit dit que nos consciences sont purifiées des œuvres mortes précisément pour que, non pas que nous servions le Seigneur d'une façon ou d'une autre, selon le service qu'il nous a confié, mais tout d'abord que nous le servions dans l'accomplissement de ce culte, tandis que nous lui rendons cette adoration qui réjouit toujours son cœur. C'est là le premier service. Et chacun doit s'en souvenir, et nos jeunes en particulier, qui sont très désireux de servir le Seigneur, et cela est excellent, mais le tout premier service, c'est de rendre culte, c'est d'adorer notre Dieu, c'est de se souvenir du Seigneur Jésus dans ses souffrances et dans sa mort.
Et qui purifie la conscience, et la purifie des œuvres mortes. La débarrasse de toutes les préoccupations religieuses sans vie, de toutes les préoccupations de présenter quelque chose à Dieu, de tout ce qui finalement était dans le cœur de Caïn. Le son est là. Abel avait compris la valeur du sang. Et le sang, comme nous le trouvons dans chapitre 12 de Deutéronome, entre autres, c'est la vie. Christ s'est offert lui-même. Il a offert sa vie lui-même pour nous. Il a offert à Dieu sa vie sainte. Le sang, c'est ce qui anime la vie, le corps de l'homme. Christ a eu part au sang et à la chair, en pureté, sans péché, mais il y a eu le sang animant son corps, et dans ce sang était sa vie, et c'est cette vie qui a été offerte. Alors, nous l'avons vu, ayant obtenu une rédemption éternelle, nous avons vu le sang purifiant la conscience des œuvres mortes pour que nous servions le Dieu vivant. Nous avons ensuite la mort qui est intervenue, toujours la mort de Christ, toujours le sang versé, afin que l'héritage éternel qui avait été promis pût être donné. Il était, pour ainsi dire, réservé, il ne pouvait pas être octroyé à ceux auxquels il était destiné. Il y en avait sous l'ancienne alliance, et ils étaient pécheurs comme les autres, bien que croyants. Alors, la mort est intervenue pour la rançon des transgressions qui étaient sous la première alliance. C'était pas le sang des taureaux, des boucs, de tous les sacrifices qui avaient été offerts, qui avaient ôté un seul péché. Mais maintenant, le sang de Christ a été versé. Et nous, pareillement, nous faisons partie de ces appelés, même ça s'applique plus directement aux croyants, ici aux juifs devenus chrétiens, et à nous maintenant ceux qui sont appelés. Je fais allusion au verset 15, n'est-ce pas? Verset 15, ceux qui sont appelés, appelés de l'appel de Dieu. Nous savons à qui cette épître a été adressée. Nous l'avons au début du chapitre 3. C'est pourquoi, frères saints, participant à l'appel céleste, ceux qui sont appelés sont en route pour le ciel. Ils ont été appelés d'un appel céleste, mais ils sont vus sur la terre. Ils ne sont pas encore en possession de l'héritage. Les fils d'Israël étaient en route à travers le désert. Ils n'étaient pas encore en possession de l'héritage terrestre, c'est-à-dire Canaan, tant qu'ils n'avaient pas passé le Jourdain. Mais nous sommes participants de l'appel céleste, et l'héritage maintenant peut être donné. Tout ce qui n'était qu'en figure autrefois, y compris le Jourdain, et maintenant devient réalité. Et comme nous avons vu dans le chapitre 8 de cette épître, que les privilèges de la nouvelle alliance en réalité conclue avec Israël, ou plutôt donnée par la grâce de Dieu à Israël, et qui comporte toutes les bénédictions futures, les bénédictions du règne, du millénium, eh bien tous ces privilèges sont déjà la part des chrétiens, de ces chrétiens juifs, de nous-mêmes, sur un plan plus élevé que des bénédictions terrestres, un plan spirituel, et qui nous amène déjà alors par-delà la terre à ce qu'a de céleste notre appel, donc ce qui est placé devant nous, devant notre foi, tout cela est acquis. Nous sommes appelés à y entrer, à en jouir déjà, parce que la mort est intervenue. Et donnant au même mot, qui signifie disposition, le mot diatheke, qui signifie disposition prise, un autre sens que le sens qui lui a été donné jusque-là, c'est-à-dire le sens d'alliance, pour prendre cet autre sens qui est exact, qui est également son véritable et véritable sens, le sens de testament, c'est-à-dire d'une disposition qui est faite par quelqu'un pour être exécuté après sa mort. L'apôtre tire argument de cela pour présenter à nouveau, et en rapport avec cet héritage, la valeur de la mort de Christ. Un testament, et il existe, mais il n'est valable, et ses bénéficiaires ne peuvent en bénéficier qu'après la mort du testateur. Eh bien, la mort est intervenue. Celui qui avait fait le testament, celui qui avait pris ses dispositions, mais c'est Christ lui-même, Christ qui est Dieu, et c'est lui qui est venu et qui est mort. Eh bien, maintenant, le testament peut, à toute sa force, la mort est intervenue. Partout et toujours, le sang de Christ, la vie de Christ, la mort de Christ.
Le sang, qui est donc le grand sujet de ce chapitre 9, nous aimerions citer un verset dans le livre du Lévitique, au chapitre 17e. Il serait peut-être bon que les jeunes ouvrent leur Bible et lisent avec nous ce verset 11 du chapitre 17 du Lévitique, qui, somme toute, est un passage essentiel. Et comme on l'a dit du chapitre 9 de cet épître, il en était, le chapitre 9 de l'épître aux Hébreux, comme tout le déploiement. Verset 11 de Lévitique 17, « Car l'âme de la chair est dans le sang, et moi je vous l'ai donné sur l'autel pour faire propitiation pour vos âmes, car c'est le sang qui fait propitiation pour l'âme. » C'est un passage extrêmement important. Le sang qui est présenté comme étant le don de Dieu. Il est dit que l'âme de la chair est dans le sang. Et en note, il est dit l'âme ou la vie. Toujours ce même sens du mot âme dans ces passages, le mot vie. Eh bien, Dieu l'a donné le sang. Il peut dire à son peuple, je vous l'ai donné sur l'autel. Que dire de la signification d'un tel passage quand nous pensons au précieux sang du Seigneur Jésus, et qu'en particulier à l'heure du culte et au moment de la célébration de la scène, nous sommes là au pied de la croix de Golgotha, nous sommes là en présence de la douleur de celui qui a été l'homme de douleur. Que nous disons-nous dans nos cœurs? Quel est à ce moment-là le sujet de notre louange à Dieu notre Père? Nous disons, voici le sang qui a parfaitement répondu aux exigences divines de la sainteté et de la justice de Dieu. D'autre part, ce sang par lequel je suis purifié, ma conscience est purifiée des œuvres mortes, ce sang est là, donné par Dieu lui-même, c'est le sang de son Fils bien-aimé, il nous l'a donné sur l'autel de Golgotha. Je le sens, je vous l'ai donné. Eh bien, s'il s'agit du précieux sang du Seigneur, il est là ce don inexprimable de Dieu, et à l'heure de la célébration de la scène, nous sommes en la présence de la croix, au pied de la croix, et nous nous disons, voilà le sang que Dieu nous a donné sur l'autel de Golgotha pour notre éternel bonheur.
Facilement.